Chapitre 11. Je retrouvai une salle des pas perdus gaie et animée. On était heureux de se revoir. On se demandait si l'on avait passé de bonnes vacances. Excellente, excellente. Où êtes-vous allé? À Lyon-sur-Mer, une petite plage de tout repos et sans chichi, vous savez. Pas besoin de se mettre en smoking. Ouf, pouvoir parler français. Tous les soirs. Vrai, ce n'est pas Deauville. Vous n'êtes pas allé faire un petit tour à Deauville? Non, merci, ce n'est pas mon genre. Une heure plus tard, je prenais le chemin de la prison où Durin devait commencer à trouver que je me faisais rare. C'était sans joie que j'allais là, mais sans terreur. J'avais tenu mes engagements, j'avais fait ses commissions, nous étions quittes. Je plaiderais pour lui et tout serait dit. Qu'il alla se faire pendre ailleurs, j'en avais ma claque. D'autre part, je ne doutais point qu'il ne se fût renseigné sur mes faits et gestes. Il avait bien dû s'amuser en apprenant que le charme d'Héléna avait suffisamment agi pour faire de moi le complice de leurs entreprises. Héléna avait dû, dans sa mystérieuse correspondance, se moquer outrageusement de moi, de mon amour éperdu et de mon incroyable naïveté. Quel triomphe pour elle de m'avoir glissé dans la peau de Mr. Flow, comme il m'avait glissé, lui, dans celle de Monsieur Prime. Ah, ils étaient dignes l'un de l'autre, les bandits. Quoi qu'il en fût, j'étais bien résolu par mon attitude à ne point lui faire douter de mon rôle de victime, de bon petit garçon qu'une jolie femme peut conduire par le bout du nez. Dès qu'il me vit, je compris qu'il était satisfait de moi. Il me serra les deux mains tout à fait fraternellement et avec une sorte d'affection protectrice. « Tous mes compliments, mon cher maître, me dit-il, fichtre, vous y allez bien. Je ne vous en demandais pas tant. »« Oh, on ne peut rien refuser à Lady Scarlett, » répliquai-je en prenant une mine volontairement confuse. « Ah, à ce propos, je devrais vous gronder. Vous avez bien failli la compromettre. C'eût été une faute irréparable et je vous aurais difficilement pardonné. Elle vous a tout dit et je sais qu'elle ne vous a point caché le goût qu'elle avait gardé pour son existence d'autrefois. Je ne doute point que ce soit elle, car c'est une ensorceleuse qui vous a poussé à d'aussi audacieuses extravagances. » Je lui ai écrit ce que je pensais à cet égard. C'est fou ce que vous avez fait là tous les deux. À la lecture des journaux, j'ai souvent tremblé pour elle et aussi pour la réputation de ce pauvre Mr. Flow. Avez-vous songé à la responsabilité que vous encourriez? Vous avez commis des fautes impardonnables, tant dans le coup de l'affaire Boieldieu que dans celui de la cité Rougemont. Oh, vous ne vous en êtes pas trop mal tiré au Havre. Mais vous avez eu tort de vous abandonner aux délices de Capoue sur la déesse. Enfin, tout est bien qui finit bien. Oh, cependant, Durin, l'histoire de l'automobile rouge n'était pas si mal que ça. Oh, ça, je vous l'accorde, c'est du bon Mr. Flow. Tout compte fait, je n'ai qu'à vous remercier et je vous annonce que vos honoraires seront à la hauteur de ma satisfaction. Bon, parlons maintenant du procès. Nous passons le 10 octobre. L'affaire sera réglée en 5 minutes. Oh, je crois que vous pouvez compter sur le sursis. D'autant que Sir Archibald est de retour en France et viendra me réclamer à l'audience. Le soir même, je rentre à son service. Eh, mon Dieu! Je crois bien que nous nous dirons adieu pour toujours. Oh, je l'espère, Durin. Vous regrettez quelque chose? Tout, Durin, je suis un honnête homme, moi. Diable, pensez un peu à ce qui serait arrivé si vous ne l'étiez pas. Enfin, je ne vous en veux pas de lâcher la carrière. Chacun va où l'appelle son destin. Nous vous oublierons. Nous oublierons tout, appuyai-je. Nous y avons intérêt l'un et l'autre. nous nous regardions dans les yeux. Puis sa bouche se détendit, et avec un sourire un peu amer. J'ai vu venir ici la première fois un enfant, je vois maintenant devant moi un homme. Vous me remercierez un jour du fond du cœur, ingrat. Sur ce, nous nous quittâmes. Nous ne nous revîmes que la veille du procès, 5 minutes. Je n'avais toujours pas de nouvelles d'Héléna et je ne lui en demandais point. Vint le 10 octobre. Le palais était une vraie ruche, le bourdonnement des robins emplissait salles et couloirs. Le tambour des portes poussées par les robes noires affairées ne cessait de retentir à gros coups sourds battant le rappel des causes. Cependant, à la 10e chambre correctionnelle, c'était à peu près le désert. On expédiait les flagrants délits. Quand on appela l'affaire Durin, il n'y avait pas 20 personnes dans la salle. Durin fut introduit. Il baissait la tête, écrasé de honte. Le président feuilleta le dossier et annonça à ses assesseurs qu'il y avait désistement du demandeur. Le substitut, cependant, maintenait les poursuites, car le délit était évident. Je soulevai ma toque. « Mon client a tout avoué, fis-je. Il regrette de s'être laissé aller à un geste qui sera le remords de ses jours. C'est un honnête homme, son casier est vierge. Son patron est prêt à le reprendre à son service. Je demande l'indulgence du tribunal et l'application de la loi de sursis. » Le président demanda si Sir Archibald Scarlett était dans la salle. Un homme se leva, et précisément, le vieillard haut et sec aux yeux pâles que j'avais vu avec Héléna à Lyon-sur-Mer. Il se borna à répéter qu'il reprenait Durin à son service, car c'était un excellent serviteur qui avait été victime d'une inspiration du méchant être, enfin le démon, mot à bout. Les juges sourirent, et le président, après s'être penché vers ses assesseurs, était prêt à prononcer le jugement attendu, quand un gentleman, qui avait de singuliers points de ressemblance avec Sir Archibald, s'avança et demanda en excellent français à être entendu. « Je viens ici sauver mon frère, dit-il, et vous apprendre qui est ce Durin qui a surpris sa confiance dans une attention certainement des plus criminelles. » Et après s'être nommé, c'était Sir Philippe, le frère cadet de Sir Archibald. Il se tourna alors tout d'une pièce du côté de Durin et lui jeta à la figure. « Vous êtes un misérable. Vous êtes le célèbre Mr. Flo. » Cette accusation inattendue, qui pouvait être l'annonce des complications les plus redoutables pour moi, me frappa comme la foudre. Et je me laissais aller sur mon banc comme si tout à coup la vie m'échappait. Heureusement que personne ne me regardait et que tous les yeux étaient fixés sur Durin. Il était vraiment curieux à contempler. Sa face, qui déjà ne respirait guère l'intelligence et dont la niaiserie était accompagnée d'un désespoir larmoyant quand on lui avait dit de se lever et qu'il avait aperçu Sir Archibald, sa face manifesta une si parfaite imbécilité qu'il obtint du premier coup un beau fou rire. Il ne protestait pas, il ne comprenait pas. Du reste, il avait tout le public avec lui qui se pâmait à l'idée que ce pauvre garçon était accusé d'être Mr. Flo, le célèbre Linouï, l'incomparable Mr. Flo. C'était aussi le sentiment du tribunal, et les juges eux-mêmes ne purent tenir leur sérieux. Ayant repris un peu de souffle, je dis sans me lever, j'en eusse été incapable, et laissant retomber mes bras comme si une pareille énormité les avait rompus. C'est une mauvaise plaisanterie. Le président interpella le témoin avec une indulgence apitoyée. « D'où arrivez-vous donc, monsieur, pour nous faire cette déposition sensationnelle ? Vous êtes ici le seul à ignorer que, pendant que Durin était sous les verrous, le Mr. Flo en question s'est signalé à Deauville, Biarritz, Rouen et dernièrement à Paris par quelques méfaits assez retentissants. Enfin, il semble avoir bien occupé ses vacances. Le substitut, qui se faisait lui aussi une pinte de bon sang, prononça. On pourrait demander à Sir Archibald ce qu'il pense de cette étrange histoire. Sir Archibald se leva et dit « Oh, je la déplore, car elle est insensée, et je prie mon frère Philippe de ne pas insister. Je répète que j'ai eu pendant 2 ans chez moi à mon service le nommé Durand et que j'en ai eu qu'à me louer. » Durin, lui, sur son banc, avait l'air de plus en plus ahuri. Quant à Sir Philippe, il continuait à le regarder d'une façon terrible. Ce que voyant, le président pria le témoin de se retourner vers le tribunal et de bien vouloir expliquer sa déposition. Sir Philippe, qui avait dû se taire sous les éclats de rire et autres manifestations de la salle, reprit sur un ton des plus secs. Je ne suis ni fou ni ridicule, comme mon honorable frère voudrait le laisser entendre. Je n'ignore pas non plus que, Durin étant en prison, on a mis sur le compte de Mr. Flo des vols et autres aventures retentissantes. Mais qu'est-ce que cela prouve? Que l'on s'est trompé, voilà tout. Et maintenant, je vais vous dire comment j'ai été amené à cette certitude. Pendant que nous étions aux Indes, mon frère et moi avons cessé toute relation par suite des intrigues d'un étranger qui avait réussi à se glisser dans notre société. Le nom sous lequel cet affreux individu s'est présenté à nous, je ne puis le dire et je ne veux pas le dire pour l'honneur de mon frère et je suis sûr que Sir Archibald ne me barbera pas de ma discrétion. L'homme aux yeux pâles se leva tout d'une pièce et lança « Philippe, vous êtes un traître, je vous renie !» Le président se hâta de mettre un terme à l'incident et pria Sir Archibald de ne plus interrompre le témoin. L'affaire prenait des proportions inattendues. Elle sembla déjà imprégnée d'un singulier mystère. Le bruit s'était répandu dans les autres salles et dans les couloirs, qu'un inculpé était dénoncé par un témoin comme pouvant bien être Mr. Flo. En quelques minutes, la 10e chambre fut pleine à y étouffer. On montait sur les bancs, on se haussait sur la pointe des pieds. Tout le monde voulait voir Durin, qui continuait de montrer sa bonne tête d'idiot. Et chacun de dire « Oh, ça, Mr. Flo, il est baboule le témoin !» Quant à moi, j'avais laissé tomber mon front dans mes bras, habillé de la toge, geste assez fréquent qui signifie que l'on est las d'entendre des insanités. À la vérité, j'étais assommé. Ah, le temps était bien passé où j'aurais été si fier de plaider pour Mr. Flo. J'allais peut-être devenir célèbre, mais de quelle célébrité? Qui eût pu le dire? Philippe avait repris sa déposition. Persuadé que l'homme en question n'était qu'une canaille, je résolus de le retrouver en Europe, où je savais qu'il avait débarqué. Mais je ne pus quitter les Indes que plusieurs mois après mon frère. Je retrouvai les traces de mon bandit en Égypte, à Athènes, à Bucarest, à Constantinople, à Vienne, à Trieste, à Venise... Mon attention avait été attirée par le fait que partout où il passait, on célébrait le passage du célèbre Mr. Flo, vols et cambriolages à but de confiance. J'eus bientôt la preuve que celui que je cherchais, ce Mr. Flo, ne faisait qu'un. Je vous dirai sous quel nom et sous quel masque celui que l'on a encore appelé l'homme au sans-visage a commis ses méfaits. J'aurai pour cela le témoignage de ses victimes et aussi celui des différentes polices qu'il recherchait et auquel son astuce proverbiale et sa science du maquillage le faisaient toujours échapper. À Venise, il se produisait au café Florian. Il avait une bonne presse au procurati sous le nom de Mr. G. L. Prim. De là, il était allé à Milan, où il avait eu l'audace de pénétrer dans la maison de mon frère, dont il devint bientôt le commensal. Mais sans doute sa dernière transformation avait-elle suffisamment duré. Il annonça son départ pour les Amériques. Entre-temps, il avait recommandé à mon frère un valet de chambre nommé Durin, qui se trouvait libre à Trieste et qui arriva 2 jours après le départ de Monsieur Prim. Sir Archibald l'engagea. Mais ce Durin n'était autre que Mr. Flo lui-même. Cela, je ne le découvris point tout de suite, car je m'étais mis à la recherche de J.L. Prim, et je perdis près de 2 ans dans cette vaine poursuite en Amérique, puis aux Indes, où j'étais retourné pour mes affaires. Enfin, je revins en Europe, où je m'accordais quelques chances de le retrouver. Mon homme ne pouvait avoir passé 3 semaines avec mon frère sans un dessein arrêté. Mr. Flo s'est toujours montré persévérant dans ses entreprises et sachant poser longtemps à l'avance des jalons qui lui serviront plus tard. C'était au tour de Sir Archibald qu'il fallait chercher. Sir Archibald était alors à Paris. Il avait toujours ce même valet de chambre que M. Prim lui avait recommandé. Un jour, ou plutôt une nuit, j'eus la preuve foudroyante que Durin, c'était J.L. Prim. C'était l'éternel Mr. Flo. Durin avait loué rue Chalgrin un entresol sous le nom de Van Hoosen, qui est un des sans-visages de Mr. Flo. Comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, toutes relations sont rompues depuis longtemps entre mon frère et moi. Cependant, je n'hésitais pas, comme vous pensez bien, à l'avertir de ma découverte. « Sir Archibald, mon frère, me répondit par une lettre méprisante. » Quelques jours plus tard, j'apprenais que Durin avait été arrêté pour avoir volé à mon frère une épingle de cravate. Ce petit incident aurait dû dessiller les yeux de Sir Archibald. Il n'en fut rien. Je décidai alors de retourner en Italie pour essayer de ramasser là-bas une preuve que je puisse sortir publiquement de l'identité de Durin et de Mr. Flo. J'ai été sur le point de l'obtenir et puis elle m'a échappé au dernier moment. Et je suis arrivé en hâte pour assister à ce procès et pour dévoiler Durin. Mais vous nous avez parlé d'une preuve foudroyante, fit remarquer le président. Oui, c'est en surveillant l'immeuble de la rue Chalgrin que j'ai acquis cette preuve-là. Malheureusement, il ne m'appartient pas de la faire connaître. Durin me comprend, lui, mais il continuera à faire celui qui ne me comprend pas. Voilà bien des mystères, fit le président. Le tribunal ne saurait admettre vos réticences, d'autant que vous n'avez pas été cité régulièrement et que nous vous entendons qu'à titre de simple renseignement. En somme, vous ne nous apportez aucune preuve. En admettant même que ce J.L. Prim soit bien Mr. Flo, nous ne voyons pas comment établir une confusion entre ce personnage et Durin lui-même. Et se tournant vers Sir Archibald, avez-vous quelque chose à dire dans tout ceci? Vous avez entendu votre frère. Monsieur le Président laissa tomber d'une bouche pleine d'amertume l'homme aux yeux pâles. Je me demande si mon frère n'est point devenu fou. Durin est en prison. Mr. Flo continue ses exploits. C'est une preuve de l'innocence du pauvre garçon, j'imagine, mais il y a mieux que cela. Il est bon que mon frère apprenne que, toujours pendant que Durin était en prison, M. J.L. Prim était à Deauville, où il était descendu au Royal, que ma femme le voyait tous les jours et qu'il dînait avec elle à la table de sa grâce, le duc de Wester. Ces derniers mots parurent accabler Sir Philip. Les journaux, en effet, qui s'étaient occupés de Mr. Flow, n'avaient eu encore aucune raison de signaler d'une façon retentissante l'existence de Mr. Prim. Le témoin, assez désemparé, se borna à murmurer « Oh, c'est impossible !» Je sentis que le moment était venu pour moi de me lever. « Je crois, monsieur le président, qu'il ne reste plus rien de cet étrange incident. Cette triste comédie a suffisamment duré. Je suis comme Durin, je ne comprends rien à toute cette fantasmagorie. Et je ne suis pas loin non plus de partager l'indignation de Sir Archibald. » Nous pouvions croire, cette fois, que tout était fini, quand le président s'adressa au substitut. « Qu'en pense le ministère public ?» Le substitut se leva. « Pour moi, comme pour nous tous, Durin ne saurait être Mr. Flo. J'ajouterais même qu'une pareille supposition ne peut que faire sourire. Cependant, puisqu'il a été question à cette audience de Mr. Flo et de Mr. J. L. Prim, ne croyez-vous pas, monsieur le président, qu'il serait bon de citer à cette barre l'inspecteur de la sûreté, Petit Jean, qui a eu tous ces derniers temps à s'occuper de Mr. Flo? On citerait également Mr. Prim, puisque Mr. Prim est en France et n'a aucune raison de se cacher. Quand le témoin verrait en face l'un de l'autre Durin et Mr. Prim, il serait bien dans la nécessité de confesser son erreur. Enfin, Durin serait débarrassé de cette terrible réputation qu'on veut lui faire bien malgré lui et qu'il n'a certainement point mérité, si j'en crois les apparences. Cette allusion à la stupidité du Durin eut encore un grand succès. « Qu'en dites-vous, Durin ?» demanda le président. « Oh, faites comme vous voudrez, monsieur le président, tout cela est abominable. » Et il éclata en sanglots. Sur ce, l'affaire fut remise à huitaine pour supplément d'enquête. J'ai tout fait en sortant de la dixième chambre. Sir Archibald vint à moi et me dit « Oh, ce pauvre Durin, le voilà bien peiné. Dites-lui bien que tout ceci n'a aucune importance et que je ne l'abandonnerai pas. » Je passai 8 jours atroces. J'étais allé voir Durin. Il se mit à rire de ma mine méconfite. « Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas ? Mais malheureux, où allons-nous ? Un supplément d'enquête, avec tout ce qu'a raconté ce sinistre Philippe. Rassurez-vous. D'abord, il a contre lui Sir Archibald, qui n'a jamais été aussi furieux, car toute la manœuvre de son frère pourrait singulièrement compromettre Lady Helena. Voyez-vous que l'on apprenne à Windsor que Sir Scarlett a épousé la sœur d'un chevalier d'industrie, même si ce chevalier d'industrie n'est pas Mr. Flo. De son côté, Sir Philippe ne tient point à déshonorer la famille, vous l'avez vu à l'audience. Ce n'est pas drôle d'être quelque chose comme le beau-frère de Mr. Flo. Il désirera d'abord débarrasser Sir Archibald de Mr. Flo. Après, on s'arrangerait sans scandale autant que possible avec la femme. En ce qui me concerne, il est sûr que je ne brûlerai pas Lady Helena, ma meilleure cartouche. Comment m'a-t-il deviné? J'imagine qu'il a dû surprendre l'intimité de mes relations avec la patronne. C'est cela qui l'a mis remis dans le droit chemin et lui a fait retrouver sous le visage de Durin celui de Prim. Mais puisqu'il ne peut rien dire, il vaut mieux en rigoler. Il est codieux et ridicule. Allez, tout va bien, cher ami, croyez-moi. Pour vous, peut-être, mais pour moi. Voilà Monsieur Prim sur la sellette. On le recherche pour le citer. Singulièrement disparu, Monsieur Prim. Je tremble qu'en parlant de Monsieur Prim, on aboutisse à mettre Antonin Rose. N'aurait plus qu'à me suicider. Oh là, Voilà les gros mots. Le suicide, comme vous y allez. Que diable, la vie est encore belle. On trouvera bien à se retourner, comptez sur moi. On comprend que de tels propos n'étaient point faits pour me redonner de l'assurance. Ah, je les payais, mes beaux jours de Deauville. Que n'avais-je passé toutes mes vacances dans l'humble hospitalité de la sage Clotilde et de la douce Nathalie. J'étais si ravagé que je n'osais plus paraître devant elle. Sur ces entrefaites, j'appris que M. Prime, restant introuvable, le parquet avait cité Lady Scarlett, qui donnerait peut-être quelques renseignements intéressants sur le fuyant personnage. Je me présentais défait à l'audience. L'affaire avait pris des proportions énormes. Les journaux s'en étaient emparés. On était venu m'interviewer au palais. Mes confrères m'enviaient et trouvaient que j'avais de la chance. Oh, de la chance! Ma mauvaise mine les étonnait et aussi mon peu d'entrain. Je prétextais des maux d'estomac, un empoisonnement par les huîtres. On se bousculait à la dixième. J'eus peine à gagner ma place. Durin arriva entre ces deux gardes municipaux avec une tête étourdissante d'imbécilité et les yeux rouges. Beaucoup de femmes dans la salle et les plus huppées. Durin n'eut encore qu'à se montrer pour obtenir ce jour-là un nouveau succès de rire. Quelques-unes de ces dames protestaient. C'était une injure qu'on leur faisait en abîmant l'image qu'elles se faisaient de leur héros avec ce grotesque. L'inspecteur Petit-Jean fut tout de suite appelé à la barre. Il était au courant naturellement de la déposition de Sir Philippe. Le président en retraça les grandes lignes dans son interrogatoire. Il y a beaucoup à retenir, déclara le témoin, dans la disposition de M. Philippe. Pour mon compte, depuis que je me suis mis à la recherche de Mr. Flo, dont j'ai été le premier à signaler le retour dans nos parages, j'ai fait le même chemin que l'honorable déposant. Seulement, je suis parti du point opposé. Il a remonté du plus loin pour aboutir à M. Jules Prime, et moi je suis parti des derniers événements pour redescendre jusqu'à Milan, où je me suis trouvé en face, comme lui, du dit M. Prime. Pas plus pour moi que pour lui, il ne fait de doute que Prime et Mr. Flo sont le même et seul individu. Mais là où je suis obligé de me séparer de Sir Philippe, c'est dans la question Durin. Prétendre que Mr. Flo sait Durin, c'est affirmer l'impossible. La présence de Durin ici en est une preuve suffisante et j'espère bien vous amener moi-même un de ces jours, ce Monsieur Prime, qui est l'auteur des derniers cambriolages dont j'ai eu à m'occuper au cours de ces dernières semaines. Mr. Flo avait à Milan trompé étrangement la confiance de Sir Archibald et de Lady Scarlett. Il ne faut pas s'en étonner. Il est passé maître dans cette sorte de bluff. Et nous avons été à la police trop souvent des victimes pour marquer la moindre surprise de l'ascendant qu'il avait pris sur ses hôtes. Si bien que, lorsque 2 ans plus tard, c'est-à-dire cet été, il s'est présenté en l'absence de Sir Archibald à Lady Scarlett, il n'est pas étonnant que celle-ci lui ait réservé son meilleur accueil. Vous entendrez tout à l'heure Lady Scarlett comme témoin. Il est bon qu'elle soit instruite des dangers qu'elle a courus, à côté de ce redoutable personnage. La présence à Deauville de Mr. Flo me fut révélée, comme on l'a écrit dans les journaux, par la façon toute particulière dont étaient forcés les coffres-forts de la villa des Charbilles et du Royal. L'instrument qui a servi est unique et appartient en propre à celui que nous traquons depuis si longtemps. Les cambriolages de Deauville se trouvaient ainsi signés de Mr. Flo. Je retrouvai Mr. Flo dans l'affaire de la cité Rougemont, Et il n'est pas impossible qu'il faille encore lui attribuer le coup du boulevard Boieldieu à Rome, Rouen, dans l'hôtel de M. Jacob. Les empreintes relevées attestent, comme à la villa des Charmilles, comme à la cité Rougemont, que l'opérateur était accompagné d'une femme, comme il est souvent arrivé à Mr. Flo. Et maintenant, Monsieur le Président, il me reste à vous apprendre comment j'ai pu identifier Mr. Flo dans ma surprime. Mes recherches dans l'appartement de M. Abraham Moritz m'ont fait découvrir tout dernièrement un objet qui avait échappé à Mr. Flo dans sa suite rapide et dans le moment qu'il cherchait l'escalier de service. Cet objet, le voici. C'est un bracelet-montre acheté à Rouen par un gentleman qui accompagnait Lady Scarlett. À ces mots, je ne fus point maître de retenir un soupir qui était presque un gémissement, et je n'osais regarder le petit chef-d'œuvre d'horlogerie que l'inspecteur faisait passer au tribunal. Vous pensez que dès que j'eus obtenu un aussi précieux renseignement, je ne fus pas long, Monsieur le Président, à découvrir G.L. Prim, lequel était descendu alors au Royal de Deauville et ne quittait plus Lady Scarlett. Son but était de toute évidence de s'emparer des bijoux de cette dame, estimée à plus de 20 millions. L'affaire était trop belle pour l'abandonner après l'avoir manqué une première fois à Milan. Il était réapparu à Deauville pour tenter à nouveau le coup en l'absence de Sir Archibald. Et il aurait certainement réussi si le domestique de confiance de Lady Scarlett avait gardé les bijoux dans sa ceinture. Ce G.L. Prim, du reste, était arrivé au Royal sans bagage. Il ne disposait dans l'instant d'aucun moyen. Il n'a point payé sa note et dans une courte apparition qu'il fit à Paris-Plage, accompagné de Lady Scarlett, qu'il promenait le long de la côte, il se signala encore par la façon désinvolte dont il quitta le palace sans payer l'appartement, renvoya la note à Lady Scarlett, qui la croyait réglée et était descendue rejoindre son compagnon. Lady Scarlett ne doit plus ignorer aujourd'hui les singuliers agissements de M. Prim. Peut-être avait-elle déjà pu le juger au cours de son voyage, car elle rentra seule à Deauville. Réduite à ses propres ressources, Mr. Flo retrouvait le soir même à Paris la complice à laquelle je faisais allusion tout à l'heure et tentait le coup de la cité Rougemont. Le lendemain, on retrouvait sa piste au Havre. Il se jetait dans le bassin du commerce, ce qui fut une occasion pour lui de goûter aux douceurs du yachting. Enfin, nous le retrouvons avec l'autre rouge à Angoulême. J'ai relevé un instant sa trace en Bretagne. Je le crois maintenant à Paris. Monsieur le Président, encore un petit mot. Lors de l'affaire de la cité Rougemont, nous avons pu découvrir comment Mr. Flo et sa compagne avaient échappé aux agents en pénétrant dans le théâtre des nouveautés par l'entrée des artistes. Nous avons même pu repérer les fauteuils qu'ils avaient occupés jusqu'à la fin de la représentation. Sous l'un de ces fauteuils, j'ai trouvé un mouchoir d'homme, dont les initiales ne nous disent rien pour le moment, mais qui pourrait peut-être bien nous servir un jour. Il se peut toutefois que ce mouchoir ait été perdu par quelque autre personne tout à fait étrangère à l'affaire. Enfin, tel quel, le voilà. Et l'inspecteur sortit de sa poche un mouchoir que je considérais avec un effroi encore inégalé. « Quelles sont les initiales ?» demanda le président. « A, R, entrelacés, monsieur le président. » Ah, en effet, cela ne semble correspondre à rien. C'est alors que cette brute de Durin se souleva et prononça au milieu d'une explosion de rire, et pendant que je faisais un effort surhumain pour ne pas m'effondrer, « Ah, oh, eh, mais ce sont les initiales de mon avocat, monsieur le président. Cet homme-là, il désignait le témoin, ne va tout de même pas prétendre que c'est mon avocat qui a fait le coup. » La salle était dans une joie qui tenait de l'hystérie. Moi, je devais faire une jolie grimace, car ces dames riaient aussi en me regardant. Le cynisme de Durin me glaçait les moelles. C'était vraiment pousser un peu loin l'audace, dans ce jeu terrible où il roulait, comme dans la farine, police, magistrat, et jusqu'à son défenseur. Je n'avais vraiment pas de chance. Je n'étais venu à Deauville qu'avec un mouchoir. J'avais ensuite acheté du linge à Rouen, aux initiales de J.A.L. Prime, mais il fallait que le seul mouchoir de maître Antonin Rose fût justement dans ma poche lors de l'affaire de la cité Rougemont et que je le laissasse tomber. J'en avais encore les reins brisés quand l'huissier introduit Lady Scarlett. Je n'avais pas revu Héléna depuis Lyon-sur-Mer, où elle était passée près de moi si indifférente. Depuis, je n'en avais pas reçu un mot. J'étais persuadé qu'elle m'avait laissé complètement tomber. Cependant, je sentis son parfum avant même qu'elle ne m'eût frôlé, et ma pauvre cervelle chavira à l'évocation de tant de scènes qui avaient senti ce parfum-là. Son entrée, certes, avait fait sensation. Elle était, comme presque toujours, d'une beauté à la fois fatale et souriante, et un murmure d'admiration accompagnait ses pas. Et comme toujours divinement mise, avec un brin d'originalité et d'exotisme, qui était sa marque et la sortait des vulgaires beautés, esclaves de la mode. Elle portait haut la tête, mais sans ridicule ostentation, et ne paraissait nullement gênée d'avoir à se montrer et à s'expliquer dans un milieu si nouveau pour elle, je veux dire, si nouveau pour Lady Helena. M'avait-elle vu? Je ne saurais l'affirmer, mais ce que je puis dire, c'est qu'elle n'eut par la suite aucun regard pour le banc de la défense où cependant elle savait que j'étais assis. Elle regardait Durin et son fugitif sourire avait l'air à la fois de l'encourager et de le plaindre. Les questions du président ne faisaient que résumer la déposition précédente à laquelle Lady Scarlett, sans le moindre embarras, donnait son plein assentiment. « Ce monsieur Prime nous a beaucoup trompés, » prononça-t-elle avec le léger accent qu'elle ne prenait souvent que par coquetterie. « C'est un vilain homme, a very nasty man. Il avait été si aimable à Milan. » Nous ne le connaissions pas, il nous avait été introduit dans une soirée chez le général Benito. Il nous rendait beaucoup de petits services. Oh, il nous était bien utile pour le bridge de l'après-midi. Enfin, c'était un ami. Quand je le revis à Deauville, je fus enchanté en vérité, et je l'écrivis tout de suite à mon mari. Mais figurez-vous que je ne pouvais plus m'en débarrasser. Il finissait par me fatiguer. Je ne pourrais pas dire si cet homme était Mr. Flo, non, ou un autre, mais c'était un vilain homme, et qui avait de mauvais desseins. Je crois bien que c'est lui qui a essayé de voler mes bijoux. Et puis, il est arrivé sans bagage, sans linge, sans argent. Il m'a raconté une histoire de mal égaré. Cela résonnait chatouilleux, vraiment. Je lui ai prêté des effets de Sir Archibald et j'allais avec lui en commander d'autres à Rouen. Il mangeait à ma table sans rien jamais payer. Il devait à tout le monde, dans tous les bars, il buvait comme un poisson. Et il jouait. Je supportais ce monsieur à cause de mon mari qui allait revenir, et qui serait heureux de le trouver pour l'Action Bridge, et aussi parce qu'il était à peine près convenable avec moi. Mais à Paris Plage, il commença à être à la limite, en vérité. Je voulus repartir tout de suite. Dans l'auto, il a été presque shocking, yes, une descente. Alors j'ai arrêté, je lui ai ordonné de descendre. Vivement, échappe! Il n'a pas voulu descendre. Et il essayait de se faire pardonner. J'ai fait comme si je pardonnais. Mais à la première stop, comme il descendait le premier, je suis reparti toute seule en vitesse. Je l'ai laissé sur la route, yes. C'est un vilain homme. Je n'ai jamais beaucoup aimé son figure. Et qu'avez-vous à dire de Durin? Oh, comme mon mari, je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Je l'ai toujours trouvé correct dans le service et il était très dévoué à Sir Archibald. Je ne puis expliquer cette sotte affaire d'épingle de cravate que par une sotte galanterie. Il portait un grand flirt avec la femme de chambre d'une de mes amies, Mrs. Tennyson. Il a fait le cadeau à la femme de chambre, à Maid. Enfin, je ne le crois pas très intelligent, mais je crois à son repentir sincère. Là-dessus, Durin éclate à nouveau en sanglots. Consolez-vous, Arthur. Don't cry, my man. Je serai très heureuse de vous revoir dans la maison. Ils échangèrent tous deux un regard que je n'oublierai jamais. Vous ne croyez pas, madame, que Durin soit le fameux Mr. Flo? Elle se mit à rire, mais à rire, et toute la salle rit encore avec elle. Alors Durin se prit à rire lui aussi à travers ses larmes, et d'une façon si bêtasse que la joie de toute la salle redoubla. Reconnaissez-vous ce bracelet-montre? Oh, Mr. Prim l'a acheté devant moi chez un bijoutier de Rouen. On l'a retrouvé dans l'appartement cambriolé rue Rougemont. Alors, Monsieur le Président, Mr. Prim a démontré que Durin ne pouvait pas être Mr. Flo. Cette phrase qu'elle prononça en regardant Durin avec un sourire, où je fus le seul à démêler une certaine joie sournoise, fut pour moi un subit ray de lumière. Maintenant je comprenais tout, et Durin, qui me jeta un rapide regard, vit bien que je n'avais plus rien à apprendre. Tout le sens de mon aventure tenait dans les quelques mots que Lady Helena venait de laisser tomber de sa lèvre amusée. Durin avait eu besoin d'un alibi, car il savait qu'il serait attaqué par Sir Philippe. Cet alibi, je le lui avais fourni comme un niais, et à quels risques et périls. J'avais été entre les mains de cet homme et de cette femme, le Mr. Flo dont ils avaient eu besoin pour que Durin pût supporter sans broncher l'assaut terrible du Scarlet Junior. Et maintenant qu'il n'avait plus besoin de moi, Durin ne se gênait plus pour me faire comprendre d'un coup d'œil que la comédie était terminée. Ah, c'était du bel ouvrage. Une fois de plus, Mr. Flo s'était surpassé. Il avait eu besoin d'un cambrioleur, il avait pris son avocat. C'était tellement fort que personne ne pouvait y penser. J'imaginais les heures de gaieté que j'allais leur fournir dès qu'ils se retrouveraient seuls tous les deux. Déjà devant moi, ils affichaient l'aventure savoureuse. À cette idée, ma prostration s'était changée en une rage muette mais forcenée. Hélas! Je ne pouvais qu'étouffer d'impuissance. Vous n'êtes pas souffrant, maître. Ces paroles du président me rendirent à moi-même en me faisant entrevoir l'abîme que je côtoyais dans une ivresse de vertige, et je m'efforçais de prononcer quelques paroles qui me fissent rentrer dans mon rôle judiciaire. Je n'y réussissais point. On crut que la chaleur m'avait accommodé, et le président hâtivement termina l'affaire. « Le sursis est accordé, maître. » Je me levai. J'avais retrouvé des forces pour fuir. Cependant, je ne fus pas peu étonné de la charitable insistance avec laquelle Sir Archibald, qui se trouvait près de moi, m'accompagna dans la salle des pas perdus. Il me proposa de me faire reconduire à domicile dans son auto. Je le remerciai en balbutiant des paroles inintelligibles. Mais il me donna sa carte en me priant de venir le voir le soir même, si je le pouvais, au Cambridge où il était descendu. Et si vous voulez nous faire le plaisir d'accepter à dîner, je vous en serai particulièrement obligé. Je voudrais vous parler de Durin. Persuadé que je serais parfaitement désagréable à Lady Helena en acceptant, je lui promis ma visite. Lord Helena sortait de la salle d'audience en causant avec des amis qui l'avaient accompagnée et parmi lesquels je reconnus Mrs. Tennyson. Sir Archibald me présenta à ces dames. Je m'inclinai devant Lady Helena avec une hautaine dignité tout à fait ridicule. Elle n'eut point l'occasion de s'en amuser. Elle était toute à la conversation et à ses coquetteries devant une galerie qui se pressait pour l'admirer. Jamais je n'ai senti comme à cette minute la toute petite chose que j'étais. Du fond de mon humilité outragée de stagiaire, je la haïssais à en mourir. Et l'homme que j'avais été tout de même pour elle, on arrivait à douter qu'il eût tenu dans ses bras cette merveille indifférente. Quand je me présentai à 8 heures au Cambridge, on me conduit à l'appartement de Sir Archibald. J'y fus reçu par Durin, qui était déjà rentré en fonction. « Sir Archibald, vous prie de l'excuser quelques minutes. Je profite, mon cher maître, de cette occasion pour vous remercier. » « Ça va, Durin, » et je lui montrai la porte. « Ça ira encore mieux, » me dit-il, « quand je vous aurai remis vos honoraires de la part de Sir Archibald. » Et il me tendit une enveloppe que je glissais dans ma poche. Je l'avais bien gagnée. « Merci tout de même, » fit-il. Quand il eut disparu, j'ouvris l'enveloppe. 5 000. Bon, tous les cœurs et malheurs, cette petite somme me fit plaisir car elle arrivait bien. Je n'eus que le temps de la faire disparaître. J'avais devant moi l'homme aux yeux pâles. « Vous excuserez, Lady Scarlett, » me dit mon hôte. « Elle est un peu souffrante. La petite séance de cet après-midi l'a beaucoup fatiguée. Si vous le voulez bien, nous irons dîner en ville. Voulez-vous que nous marchions un peu ?» Comme nous sortions de l'hôtel, j'eus le temps d'apercevoir Lady Helena qui, en toilette de soirée, montait dans une auto où se trouvait déjà Mrs. Tennyson. Et j'entendis des rires. « Ah, la damnée femelle !» Sir Archibald paraissait n'avoir rien vu. Je restais 2 heures avec lui. Je n'ignore plus ce que c'est que l'esprit puritain. Il ne m'entretint que de Durin, de la nécessité de sauver une âme qui n'était point foncièrement pervertie, et des responsabilités du maître vis-à-vis de ses serviteurs. Comme je l'écoutais sans interrompre, ma conversation lui plut, et il m'invita à venir chasser le grouse dans ses propriétés d'Écosse. Je répondis vaguement à sa politesse. Je pris le chemin de chez moi, fort agité, riche de souvenirs et de 5 000 francs, mais injuriant, Lady Helena, férocement, comme un roulier qui vide son cœur devant une catin. Au coin de la rue et du boulevard Saint-Germain, une auto stationnait. Au bruit de mes pas, une forme féminine se pencha à la portière. « Rudy !» Je bondis. J'étais dans les bras d'Elena. « Oh, chérie, darling !» La portière avait été refermée sur notre étreinte forcenée. Nous passâmes une partie de la nuit dans je ne sais plus quel terminus, au palais d'Orsay, je crois. Avant de me quitter, elle me dit « Nous quittons Paris demain. Sir Archibald t'a invité à venir chasser le Grouse. Dans quelle semaine tu recevras une lettre ? Viens, Rudy, viens, je t'en conjure, ne m'abandonne pas. » Ce sont toutes les explications que nous eûmes. Le mois suivant, je m'embarquai à Boulogne par une mer démontée. Je fus très malade pendant la traversée. Je le fus davantage après.